Sir, what's the real reason why you two men split? Is it merely ideological or is it personality? What else?
Probably personality. It was not the statement that originally was given by the movement when we split. More personality than anything else.
You've called people like Martin Luther King, who just got a Nobel Peace Prize, an Uncle Tom. Is this correct, first?
Well, I'd rather say that in the States, there's a law that has recently been passed, or a decision handed down by the court, wherein if you call someone an Uncle Tom, they can sue you for libel.
Well,
so I never refer to them as Uncle Toms. I would say that Uncle Martin is my friend.
Uncle Martin is your friend, yet you would disagree with his approach to what he wants to accomplish.
Definitely. If his approach would bring about what the black man in America needs to completely eliminate the problem that we have, I would say well and good. But I very much doubt that anyone who adopts the approach that Martin Luther King has been teaching to our people in that country can point to any meaningful gains that has actually served to solve the problem.
Black Muslims have sometimes, whether you have or not, and I think probably you have sometimes, it seemed to me, been preaching hate to meet hate.
I don't advocate any kind of hate.
But there's a lot of talk that sounds very much like it.
No, I think that the guilt complex of the American white man is so profound until when you begin to analyze the real condition of the black man in America, instead of the American white man eliminating the causes that create that condition, he tries to cover it up by accusing his accusers of teaching hate. But actually, they're just exposing him for being responsible for what exists.
Well, that's something of an argument, but I've heard speeches made by some of the people of your group. I think I've heard you make speeches. It seemed to me that you were advocating what I would have to describe, I think, as violence to meet the serious injuries that have been done your people, with which I totally agree.
I don't call that violence. I don't in any way encourage black people to go out and initiate acts of aggression indiscriminately against whites. But I do believe that the black man in the United States, and any human being, anywhere, is well within his right to do whatever is necessary, by any means necessary, to protect his life and property, especially in a country where the federal government itself has proven that it is either unable or unwilling to protect the lives and property of those human beings.
Just before Pierre takes it, you've got a pretty good fighter and the world's heavyweight champion lined up with you to help out. Yes, Pierre.
Well, Mr. X, if I guess I call you that, is that a proper appellation?
Yes.
Mr. X, I'm wondering if you still believe, as I think you certainly did at the time you were allied to the black Muslim movement, in a segregated black nation.
No.
In North America.
I don't believe in any form of segregation or any form of racism. I'm against any form of segregation and against racism.
Am I right in saying that the black Muslim movement, which you have left, did believe in that?
Well, Elijah Muhammad taught his followers that the only solution was a separate state
yeah.
for black people. And as long as I thought he genuinely believed that himself, I believed in him and believed in his solution. But when I began to doubt that he himself believed that that was feasible, and I saw no kind of action designed to bring it into existence or bring it about, then I turned in a different direction.
Are you still a Muslim yourself?
Oh, yes. I'm a Muslim. I believe in the religion of Islam, which believes in brotherhood, complete brotherhood of all people. But at the same time that I believe in this brotherhood, I don't believe in forcing my desire for brotherhood upon those who aren't willing to accept it.
Of course, I think the Christians would say that they also believed in brotherhood. What did you say to that?
I'd say they believe in it, but don't practice it.
Well, that'd be a pretty good answer.
Sir, when the muezzin goes up in the minaret twice a day, he cries to the world, "There is but one God, and he is Allah." Do you deny that there is a Christian God?
The muezzin does this five times a day.
Five times, and I only heard him twice.
Well, you were fortunate to hear him twice. But he does this five times a day, and the same God that he says that he expresses the existence of is the God that the Christians profess to believe in themselves, and the God that the Jews believe in, one God, the creator of the universe. The Muslims believe in the God that created the universe, and I think the Christians do, and the Jews do. Now, as long as all of them are talking about the creator, the Jews may call him Jehovah, and Christians may have another name for him. Those who are Arabic-speaking refer to him as Allah. Well, we believe in the same God.
Now, as the Muslim religion advances in the United States, are you modernizing it or sticking with the old faiths? For example, the complete segregation of the sexes.
I think that everything today on this earth is being modernized. Religious principles and practices, as well as political and other things.
Now, when you went to Mecca, this is a very sacred and forbidden city. I tried to get to Mecca myself and certainly didn't make it, not being a Muslim. But how would they accept you as one? You're an American. There are few American Muslims.
This is true. And by being an American and not having not being able to speak the Arabic language, I did strike a snag, a very serious snag. But I was fortunate to have been pretty well known by the officials in Arabia, and they knew too that I had accepted Orthodox Islam. It had been highly publicized in the paper, and I became a guest of the state. I was a guest of Prince Faisal, the present King Faisal, and they made it possible for me to go before the committee, Hajj committee or Hajj court, who examines you and asks you questions about your belief, and if you pass it, then you are okay to go to Mecca.
But it's you would true. Have to have a translator then.
Oh, I had one. Then we're realizing that our problem in America, that we are black Americans, and we have a problem that goes beyond religion. We formed a group known as the Organization of Afro-American Unity. And the objective of this organization, it's non-religious, number one. Any Negro can belong to it. And the objective of that organization is to bring about a condition that will guarantee respect and recognition of the 22 million black Americans as human beings.
Malcolm X, donc, en 1965, qui parle de son voyage à la Mecque, qui parle de sa séparation, enfin, du fait qu'il ait quitté la Nation Islam de Elijah Muhammad. Alors, pourquoi commencer par Malcolm X? Parce que c'est la source de tout, enfin, c'est la source de tout. De ce dont on va parler. On va parler des Black Panthers, on va parler de la Black Liberation Army, on va parler de Joan Chesimard, alias Assata Shakur. On va lui rendre hommage puisqu'elle nous a quittés le 25 septembre dernier. Et donc, à la base des Black Panthers, eh ben on a Malcolm X. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons X-Clan avec Funkin Lesson.
Professor X, the Overseer. In the early 1900s, a brother set out on voyage. His mission, black nationalism. His oath, freedom or death. In the 60s, brothers like Stokely Carmichael, H. Rap Brown, the mission, black nationalism. The oath, freedom or death. In the 90s, the mission, black nationalism. The messengers, X-Clan. The movement, Black Watch. The oath, freedom, or death. By the way.
Freedom or death, you shall all be moved. Vanglorious, this is protected by the red, the black, and the green. With the key, city.
Abracadabra, a la baby professor. All hail funkin' lesson. Sweet tongue, grand writer of scrolls. Now behold, let the legend unfold. Born in the cosmos, where no time and space do exist. Vibe in the midst of the chaos. Mortals label me as a logical, mythological. They couldn't comprehend when I brought the word. A stick called verb, a black steel nerve. Teaching those actors and actresses who write a couple lines on what black is. Really? Then they label me a sin. When a brother just speaks what's within. I guess I'm blacker than the shadow in the darkest alley that they're always scared to go in. Boo! I wear boots and beads, bags and braids, stick and scroll, rings and shades. Walk in the light of the moon, but I've never been a Batman. African, call it black man. Brother extracts the African steps in your movements. Enhanced for improvements. Grand funk. I knew a home for the phrase. Funk and lesson the pathway.
Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe
in. Gotta get it on the good foot. It's gone.
Let me tell you about blackness. Grits and cornbread. How can you act this? I exist on a plane where the jar is my brain. I'm living to retrieve self. Antenna my stick. Picture bigger. Native liquor. Figure. The pull of the trigger goes zoom. Not boom. Not a bunch of sissies, but saviors braver. The red, black, and green. It's just so much more than red, black, and green. You ask what I mean. But yet the sundown shades and lights and dreams. Watch too late. Oops. Upside your head. You drop through abyss like
fled. Where you going? What's your speed? What's your pleasure? What you need? Trees and branches, roots and seeds. Forwards, backwards, many degrees. Questions, answers, what's the sum? We have come.
Out of the darkness in panther skin comes doctors driving pink caddies, bearing the remedy to your existence. Yes, it gets blacker with a Nat Turner lick. Martin, Adam, Malcolm, Huey, there's a party at the crossroads.
Enchaîne avec Cam et le morceau Murder Them Murder, un morceau inédit qui devait sortir en 2006 dans le cadre d'un album qui aurait été produit apparemment par Dr. Dre. En tout cas, le morceau qu'on va écouter a été produit par Dr. Dre et voilà, donc c'est jamais sorti. Cam, Murder Them Murderers. Bon, Cam est beaucoup plus connu pour le morceau par exemple Peace Treaty. Cam qui était dans l'entourage de Ice Cube et puis s'est brouillé avec lui. Cam qui était, je crois, adepte de la Nation of Islam, comme Ice Cube d'ailleurs. Sauf que Ice Cube a quitté la Nation of Islam. Et, alors, soit Cam y est encore, soit Cam l'a quitté beaucoup plus tard. En tout cas, écoutons Murder Them Murderers.
To be murdered by.
Motherfucker, this is my zone, my Sly Stone, Killer Cali. And we them do or die, dry bones in the valley. About to retaliate for every trip and every pyro. Yeah, and it's the theme song for y'all to die to. Classic like the Bayou. So Tookie, we gon' put Arnold in the hot seat. How that Nazi gon' deny you? Fuck police chief Bratton. He the reason blacks is feuding with the Latins. And these rats keep ratting. So what's happening, man? I know you got some pull, dawg.
No joke, I'm trying to see these niggas croak like a bullfrog.
Let's open up the full log on them then and push. I get Bratton and Schwarzenegger.
And I'ma get George Bush.
Hit them like them Kush blunts. And if we can get every side to ride together, homie, for just once, then the manhunt's is on. It won't stop until these goddamn punks is gone. We gon'
murder these murderers, murder them murderers. We gon' murder them murderers, murder them murderers, murder them murderers. Let's murder these murderers.
Man, these United Snakes is the
terrorists. Them faces all about the cake, so this how we gon' take care of this. Shaking a rental from LA to Sacramento. I'm thinking about the victims of Katrina back in Inno. How the troops is dying on foreign soil. Why they lying that it's over some weapons when it's about the oil? Niggas staying loyal to these neoconservatives. Why they giving us three strikes like we don't deserve to live? Went from Osama to Saddam, claiming he got a bomb and trying to blame the drama on Islam. But see, I'm West Coast finest, and goddamn it, the whole planet behind us. But this Peckerwood cracker don't give a fuck, so we gon' parade him through the hood in the back of a pickup truck. All chained up for everybody to see. It can't be no peace with the beast. That's why it gotta be
murder and murders, murder and murders. Murdered and murders, murdered and murders. We got a murdered and murders.
You really fucked up this time. Don't look like I'ma be able to hold this one back. You brought to us the KKK. We bring to you the Men's Club.
I don't give a fuck if the record label drop. I don't give a fuck if I sell one cop. I kill a devil right now and say fuck a record deal. I kill a devil right now and say fuck a record deal. We live on Vermont, who for trigger a Broadway man, that Pedro Avalon. My niggas living in Babylon, I say kill,
Whitey,
Almighty God. Niggas in the church say, Lord. See, I could get a record deal if I just said, fuck niggas. But I can't get no deal cause I say, fuck white people. I stab the fucking Jew with a steeple, we ain't equal. I drop bombs on Uncle Tom like Psalms 8, Bruce. Niggas shoot niggas over dollars just for the buck of it. But I would kill a cracker for nothing just for the fuck of it. Cause I don't give a fuck if the record label drop. I don't give a fuck if I sell one copy. I kill a devil right now and say fuck a record deal. I kill a devil right now and say fuck a record deal.
If I kill for these colors, you're a under motherfucker. Stutter step right, connect you standing up above ya. Business plan, killer cracker, jack I'm even quicker. Devils better be ready, this minutes better be going, I'm in this liquor. Kill a devil right now and say fuck a record deal. Creep through crowded click and bitch and shooting that wheel.
Cause I don't give a fuck if the record label drop. I don't give a fuck if I sell one copy. I kill a devil right now and say fuck a record deal. I kill a devil right now and say fuck a record deal.
So fuck all that shit you talking about. Black letter hear what I'm talking about. Catch that devil slipping, blow his fucking brains out. Just before that video shoot, just before you get your loot, just before you lay them vocals, grab that devil in the toto. Enough weed, that fluid needs to be green. Niggas in the maze know what the fuck I mean. Cause you've been killing us, so in this nine I trust. Justice will be served, scattered brain matter in the curve.
Cause I don't give a fuck if the record label drop. I don't give a fuck if I sell one copy. I kill a devil right now and say fuck a record deal. I kill a devil right now and say fuck a record deal.
I say fuck the Houston police.
Motherfucker, I say fuck the LA police.
But nigga, look, I say fuck the Houston police.
Motherfucker, I say fuck the LA police.
Nigga, you be tweaking.
I be creeping deep in the darkest ghetto streets of South Central LA with my motherfucking AK.
I live my whole life in poverty, so what? At least I got me one victim of disturbance. Soldier, street sweeper, shotgun, shoot to the chest. SOS, he was promo at the boat. Damn, what a way to go. Told that boy a new asshole. Brothers put that chip on my shoulder. Makes me wanna run a motherfucker over. Cause
I don't give a fuck if the record label drop. I don't give a fuck if I sell one copy. I kill a devil right now and say fuck a record deal. I kill a devil right now and say fuck a record deal. I don't give a fuck if the record label drop. I don't give a fuck if I sell one copy. I kill a devil right now and say fuck a record deal. I kill a devil right now and say fuck a record deal.
À l'instant, c'était Menace Clan avec Record Deal. Menace Clan, donc groupe signé chez Rap-A-Lot, qui a sorti un album qui s'appelle The Hood, avec un morceau incendiaire qu'on ne passera pas ici, qu'on a déjà passé d'ailleurs. Mince, comment ça s'appelle ? En tout cas, je crois que le morceau, il y a Mayhem dedans. On va passer à un peu de Blaxploitation maintenant, avec ceci, par lequel on commence. Par celui-là, cette bande-annonce.
His right hand, repeat after me.
The spook who sat by the door. The controversial best-selling novel now becomes a shocking screen reality. The story of the first black agent in the CIA.
Whoever they select will be the best known spy since 007.
Their first mistake was letting him in.
And let me congratulate you on being the first Negro officer in the Central Intelligence Agency.
Their worst mistake was letting him out.
Really want to mess with Whitey? I can show you how.
For 5 years, he was their token Negro.
Freeman, you people must serve.
For 5 years, he kept his cool.
Man, you just don't belong. I think you'd be happier with a mop in your hands.
Like your mama.
And in return, they taught him how to spy. How to fight. How to kill. For 5 years, he was the spook who sat by the door. And then, he turned gangs of ghetto kids into a highly trained guerrilla army.
We live off the land. We match technology with spontaneity and improvisation. Men against machines, brains against computers. Now, if you don't think it can work, you check out Algeria, Kenya, Korea, and Iran. Can you dig it?
He turned a summer riot into a revolution.
This is not about hate white folks. It's about loving freedom enough to die or kill for it if necessary.
He turned the American dream into a nightmare. Yesterday, a novel. Today, a movie. The spook who sat by the door.
In Mayor's office is now air conditioned, courtesy of the Black Freedom Fighters of Chicago.
Donc, bande-annonce du film The Spook Who Sat by the Door, qui est donc un film lié à la Blaxploitation, enfin, lié à la Blaxploitation, mais c'est pas tout à fait dans l'archétype du film de Blaxploitation, genre Shaft, etc. C'est un film qui a été réalisé par Evan Dixon, et c'est à partir d'un roman dont le... J'ai trouvé ça tout à l'heure. Alors, la version française du... De ce roman, c'est Notre agent à Harlem. Alors, The Spook Who Sat by the Door. Alors, Evan Dixon, c'est un acteur qui a tourné dans un film qui s'appelle notamment Nothing But a Man, qui a été présenté à la Cinémathèque il y a l'an passé ou l'année d'avant. Cinémathèque des studios, hein, je précise. Et donc, dans ce film, donc Nothing But a Man, c'est un peu comme, si je me souviens bien, le roman de Chester Himes, If He Hollers, Let Him Go. En fait, il s'agit d'un ouvrier noir. Donc, le film date des années 60, hein, je crois que c'est 63 ou 64. Donc, c'est un ouvrier qui est viré en fait pour son franc-parler parce qu'en gros comme on dit en termes anglo-saxons, it doesn't play by the rules, donc il ne joue pas selon les règles. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne se gênent pas pour dire à ses employeurs qui sont en général blancs, qu'ils sont racistes ou qu'ils ne sont pas justes, etc. Et donc, il se fait virer à chaque fois. Donc, si je me souviens bien, il rencontre une dame qui est institutrice. Il se prépare à se marier, mais il doit en gros se tenir tranquille. Et en fait, il se fait encore virer. Et au final, il y a d'autres choses qui arrivent. Et au final, en fait, ça se termine très mal. Donc, c'était Evan Dixon qui avait le rôle principal dans ce film. Et donc, pour 73, Sam Greenlee, celui qui a écrit la nouvelle. Donc en 73, il réalise le film donc The Spook Who Sat By The Door. Alors The Spook Who Sat By The Door, c'est un bouquin polémique, n'est-ce pas ? En tout cas par rapport à l'époque. C'est un bouquin qui a été fait en 69 et en gros c'est l'histoire d'un comment on appelle ça la discrimination positive, voilà. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui postule pour travailler à la CIA. Il y a très peu de noirs et donc c'est le seul qui est recruté. Donc il est assez brillant et en fait son rôle pendant des mois, ça va être la photocopieuse et puis servir de guide en fait aux gens qui viennent visiter les bureaux. En fait, il est mis en avant pourquoi ? Pour que la CIA puisse dire, vous voyez, on n'est pas raciste, on a des employés noirs, mais en fait, on ne le met en avant que lorsqu'il y a des visites, sinon il est cantonné à la photocopieuse et trucs comme ça. Mais il apprend des choses et en fait, il quitte la CIA et il décide en fait de monter un mouvement qui va devenir... une milice. Alors, je pense que c'est un lien avec la Black Liberation Army et les Black Panthers. Et au final, le mouvement va s'organiser dans différentes villes. Et en fait, ça sera de la guérilla urbaine. Et même si donc le protagoniste principal est éliminé, c'est la théorie des foyers, des focaux de Che Guevara et Fidel Castro, c'est-à-dire des foyers révolutionnaires dans différentes villes, dans différents endroits. Ce qui fait que même si on élimine un leader, y en a un qui monte au créneau et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc quand le bouquin se termine, en fait, sachant que oui, ils ont volé des armes, etc. Enfin, disons qu'ils commencent à remporter des victoires. Donc voilà pour The Spook Who Sat By The Door, qui est sorti en 73. Alors, inutile de dire que le film n'a pas été vu par des millions et des millions de gens, puisque ça a été censuré. Je crois qu'il est resté à l'affiche une semaine ou deux, grand maximum, et dans certains cinémas, pas partout. C'est pas comme, par exemple, Shaft ou Superfly ou même Dolemite. Voilà pour The Spook Who Sat By The Door, donc, dont on a entendu la bande-annonce. On vous met une autre bande-annonce. Alors un film, par contre, qui a eu, je pense, beaucoup plus de beaucoup moins de soucis, malgré le titre, c'est Boss Nigger, donc avec Fred Williamson et Derville Martin.
They call him Boss, Boss Nigger.
They rode into a white man's town. Bringing black man's law. He's black. He's brutal. He's boss. Fred Williamson is Boss Nigger.
They call him Boss. Boss Nigger.
I just sworn your new deputy. Made myself the sheriff.
Being called a nigger in public. Now that's $20 or 2 days in jail.
Take your filthy black hands off me, nigger!
He just locked up the bank president!
Well, you all been hunting black folks for so long, we just want to see what it felt like to hunt white folks.
Part legend, part devil, all man.
That's just to satisfy your curiosity.
Good morning, gentlemen. It's my pleasure to tell you that...
Sir, you are interrupting our breakfast. We never discuss business while we're eating.
Where'd you learn to talk like that?
I've been wanting to say that to somebody for 8 years. My slave master said that to me once. It sounded so pretty, I never forgot it.
We got that nigga, let's go!
I ain't leaving this town till I get me Jed Clayton.
Fred Williamson is Boss Nigga. Dervio Martin, his deputy.
They call him Boss. They call him Boss. Boss Nigga, he's so bad. They call him Boss. They call him Boss. Boss Nigga.
The nigger, mama, is nigger.
Spirit of God. Spirit of the Black Panthers, in the spirit of Asada Shakur, we make this movement towards freedom for all those who have been oppressed and all those in the struggle. Yeah, yeah, check it. There were lights and sirens, gunshots fine. Cover your eyes as I describe a scene so violent. Seemed like a bad dream. She laid in the blood puddle, blood bubbled in her chest. Cold air brushed against open flesh, no room to rest. Pain consumed each breath, shot twice with her hands up. Police questioned, but shot before she answered. One panther lost his life, the other ran for his. Scandalous the police were as they kicked and beat her. Comprehension, she was beyond, trying to hold on to life. She thought she lived with no arm, that's what it felt like. Got to the hospital, eyes held tight. They moved the room to room, she could tell by the light. Handcuffed tight to the bed, through her skin they bit. With guns to her head, every word she got hit. Who shot the trooper, they asked her. Put mace in her eyes, threatened to blast her. Her mind raced till things got still. Opened her eyes, realized she's next to her best friend who got killed. She got chills as they told her that's what she would be next. Hurt mixed with anger, survival was a reflex. They lied and denied visits from a lawyer, but she was building as they tried to destroy her. If it wasn't for this German nurse, they would have served the worst. I read the sister's story, knew that it deserved a verse. I wonder what would happen if that would have been me. All of this just so we could be free, so dig it, y'all. Of a prison with all males and the smell of misery, seedless toilets and centipedes. She exercised, paint, and began to read. 2 years in a hole, her soul grew weak. Away from people so long, she forgot how to speak. She discovered freedom is an unspoken sound, and a wall is a wall and can be broken down. Found peace in the Panthers, she went on trial with one of the brothers. She had a child with the foulness, they would defeat her, hoping she'd lose her seed. Held tight, knowing the fight would live through the sea. In need of a doctor, from her stomach she'd bleed. Out of this situation, a girl was deceived. Separated from her, left to mother the revolution. And lactate to attack hate, cause federal estate was built for a black fate. Her emptiness was filled with beatings and court dates. They fabricated cases, hoping one would stick. And said she robbed places that didn't exist. In the midst of threats on her life and being caged with Aryan whites, through dark halls of hate, she carried the light. I wonder what would happen if that would have been me. All of this just so we could be free. Yeah, I often wonder what would happen if that would have been me. All of this just so we could be free. So dig it, people.
Listen to my love, Messiah. Your power and pride so beautiful. May God bless your soul.
Yeah. From North Carolina, her grandmother would bring news that she had had a dream. Her dreams always meant what they needed them to mean. What made them real was the action in between. She dreamt that Asada was free in their own house in Queens. The fact that they always came true was the thing. Asada had been convicted of a murder she couldn't have done. Medical evidence shown she couldn't have shot the gun. It's time for her to see the sun from the other side. Time for a daughter to be by her mother's side. Time for this beautiful woman to become soft again. Time for her to breathe and not be told how or when. She untangled the chains and escaped the pain. Broke out of prison, I could never explain. And even to this day, they try to get to her, but she's free with political asylum in Cuba.
About what it is, because I've never been free. I can only share my vision with you of the future, about what freedom is. The way I see it, freedom is the right to grow, it's the right to blossom. Freedom is the right to be yourself, to be who you are, to be who you want to be.
C'était Common avec A Song for Asata sur l'album Like Water for Chocolate. Donc à la fin, vous avez Asata Shakur qui parle. Common qui, comme notamment Paris Public Enemy, a fait un morceau en référence à Asata Shakur. Alors Public Enemy, on va peut-être écouter le morceau. Mais commençons par Paris avec... Non, où est-ce qu'il est le Paris ? Il est là le Paris, avec le morceau justement Asata Song sur l'album Sleeping with the Enemy, qui est son second album.
Your worth, still thinking of a master plan to protect and respect, cause the fact is I love the black woman. Was a time when I would see you and try and go for months.
push up in the guts for a month or two. Leave a stamp, break camp, y'all know the rules. And if something went wrong, it was your fault. The time was cut short and so were the phone calls. Then someone would ask if I know ya, come up in my face and I would be like, what, who? But then I seen that the game was ignorant. The time had come for me to break away from that. Don't you know there ain't no future in hurting our own? It's bad enough that the trust and love are gone. So I strive for one to provide for and hold and take and elevate and guide for. So many people want to destroy, but I can't and I won't stop ever being true to black woman. And beat you bad. It's better to have nothing in something at all and end up like a case being worse than a close call. So listen to the message in the song. It ain't nothing but a way to make us strong. Quit being so quick to chase the juice and diss us trying to taste another's fruit. In the land of America, I gotta hold my own and stay down with you. Cause everybody wants to wreck, but I'ma love you and show respect. I need you, black woman.
Donc là, vous aurez compris qu'on place surtout des rappeurs militants, donc Paris, Common, dans un instant Public Enemy, et pas des Nicki Minaj ou des... Qu'est-ce que je pourrais trouver, moi, des... Enfin bref, pas des Mumble Rappers ou des trucs comme ça. Pas de Future, pas de comment il appelle, Birdman, Master P, etc. Enfin, quoi que Master P, peut-être. Enfin, bref. No rubbish. Écoutons donc Rebel Without a Pause de Public Enemy, où Chuck D, supporter of Chazzy Mard. C'est sur l'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, et on va dire que c'est le meilleur album de Public Enemy, et là où le line-up était au complet, et donc le vrai line-up de Public Enemy. Je ne dis que ça. Rebel Without a Pause. Alors on va vous le remettre au début pour avoir le discours, l'extrait total du discours de... Comment il s'appelle le monsieur ?
Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show, bum rush the sound. No, you guess I'm just a radical, not on sabbatical, yes to make it critical. The only part of your body, chipping part of it too. Pass the power on the hour from the rebel of you.
Hey yo, Chuck, man, I don't understand this, man. Yo, you got this money out, man, you're losing them.
Radio, suckers never play me. All the mix, they just okay me now. Known and grown, when the clock in my zone is known. Sneaking and taking everything that the brother owns.
Donc, alors, c'est Jesse Jackson, voilà le nom que je cherchais. Alors, vous aurez compris, donc, c'est le passage en question. Hard, pour faire rimer avec Supporter of Chazzy Mard. Donc, on vous le remet, on vous le remet.
Me
C'était donc Public Enemy, Rebel Without a Pause. On pourrait aussi passer Fight the Power, mais on va s'arrêter. Alors, il est temps quand même d'aborder le sujet ou de se rapprocher du sujet. Donc le sujet, c'est Assata Shakur. Et on a évoqué le Black Panther Party. Il faut peut-être rappeler de quoi il s'agit. On a démarré donc cette émission avec Malcolm X. Et donc Malcolm X est assassiné en 1965. Il a donc c'est un transfuge à la Nation of Islam. Donc il a fondé son mouvement, donc un mouvement pour les Noirs musulmans. Et à côté, il a décidé de fonder un mouvement qui s'adressera à tous les Noirs, peu importe la religion. Donc c'est la LOAAU, donc Organisation Afro-Américaine pour l'Unité, je crois, de mémoire. Et il y a des gens qui sont intéressés par ce mouvement, et il y a notamment un certain Bobby Seale qui a entendu parler de ce mouvement. Donc Bobby Seale est un étudiant californien. Et il va rencontrer donc un certain Huey P. Newton, qui est aussi étudiant. Ils sont en Californie du Nord, je crois que c'est le Merritt College, si je me souviens bien. Et donc, ils décident de fonder une association. Au début, ils font partie d'une association militante étudiante et ils trouvent que les gens sont un peu trop timorés. Et donc, le 15 octobre 1966, ils décident d'avoir une plateforme en 10 points, ce en quoi nous croyons et ce que nous voulons, si je me souviens bien. Et donc, c'est la naissance du Black Panther Party. Donc, cofondé par Huey P. Newton et Bobby Seale. Donc, Bobby Seale sera le président, le chairman, et Huey P. Newton sera le Minister of Defense. Et plus tard, il y aura le Minister of Information qui sera Eldridge Cleaver. Mais ça sera à partir de 67. Donc, le Black Panther, ça s'appelle au début le Black Panther Party for Self-Defense. Et ils vont décider, je crois que c'est sous l'impulsion d'Eldridge Cleaver, il me semble, d'éditer un petit journal, qui sera donc le journal du parti, et qui sera vendu dans toutes les sections du parti, et qui sera une source importante de revenus pour le parti. Et d'ailleurs, le journal sera souvent confisqué par la police ou par le FBI. Voilà, pour résumer. Hein. Parce que le parti a duré de 1966 à 1980, mais on va dire qu'à partir de 73-74, ça commence à sentir le roussi. Alors, je résume. Donc, 66, création du parti. Ensuite, le parti s'étoffe un peu. Donc, il y a des recrues comme Bobby Hutton, qui a 17-18 ans. Donc, plus tard, il y aura Eldridge Cleaver qui sera impressionné. Enfin, Eldridge Cleaver qui était un écrivain aussi, bon, un repris de justice aussi. Hein. Il a écrit Soul on Ice. Bon, on va dire que c'est un peu, c'est un peu controversé, hein, ce qu'il écrivait quand même dans Soul of Ice. Mais bon, les Panthers... Une partie des leaders et des militants des Black Panthers auront aussi un comportement un peu douteux. Alors, l'idéologie des Panthers, quand même, donc c'est bien sûr c'est le maoïsme, enfin, c'est plutôt la gauche et l'extrême gauche, le marxisme, le maoïsme. Ils ont commencé à rassembler des fonds en vendant sur les campus le petit livre rouge donc, de Mao. Il s'inspire notamment de Frantz Fanon, donc les Damnés de la Terre. Huey Newton a étudié certains textes et à partir des Damnés de la Terre, il a un peu forgé une théorie. Il faudra que je revienne là-dessus, mais c'est pareil, c'est assez long à expliquer. En tout cas, l'un des dans les principes des Panthers, c'est que le sous-prolétariat, c'est-à-dire la frange, on va dire ceux qui sont au chômage, les petits délinquants, etc. Ça peut devenir des révolutionnaires. Alors c'est forte. Alors dans la théorie, c'est possible. Dans la pratique, c'est un peu ce qui va entraîner la perte des Panthers au sens où, au lieu de recruter par exemple comme le SNCC, le SNCC de Stokely Carmichael, ou des autres associations étudiants, au lieu de recruter donc des jeunes plutôt cultivés, ils vont s'adresser donc à ces jeunes cultivés certes, mais aussi à des gens un peu plus remuants, on va dire, qui vont intégrer dans les rangs. Et le fait que les Panthers aient un certain prestige, ça va entraîner des gens justement à prendre l'uniforme des Panthers, qui est donc le béret noir, la veste de cuir, la chemise bleue, et à parader, à plastronner. Et éventuellement, justement, des gens du Lumen Proletariat, des petits délinquants qui, lorsqu'ils rentrent dans les Panthers, ne vont pas abandonner leur pratique, loin de là. Donc, ils vont continuer à voler et à braquer des supermarchés et trucs comme ça. Alors, évidemment, quand on voit quelqu'un avec l'uniforme des Panthers qui braque un supermarché, ça fait mauvais genre, on va dire ça comme ça. Et donc il faudra expulser certains ou pas, et il y aura un souci aussi, et bien entendu le fait d'être surveillé par les autorités, par la police, il y aura une infiltration qui sera bien sûr très dommageable très dommageable au parti. Donc il y a ça. Il y a le fait que même si le parti encourageait, on va dire, la mixité, certains individus étaient largement misogynes et il y a eu des choses inqualifiables qui se sont passées. Alors, il y avait quand même des militantes féminines. Donc, bah, si on parle d'Assata Shakur, on peut aussi parler de Kathleen Clever, de Joanne Huggins et plein d'autres femmes qui ont donné une certaine importance par leur action au parti. Bon, on peut parler de Afeni Shakur, donc la mère de Tupac. Ça, c'était à New York. On parlera modérément de Helen Brown. Et donc, le parti se développe donc d'abord à Oakland et puis à Los Angeles. Alors Joanne Huggins, c'est la femme de d'un militant des Black Panthers du côté de Los Angeles. Donc il y a Al Prentice, j'ai oublié. On va réviser, mais donc en gros il y a deux leaders du côté de Los Angeles qui vont fonder donc la section. Et qui auront maille à partir avec le mouvement US, qui est le mouvement de Ron Karenga. Alors, Ron Karenga, militant noir, plutôt afro, comment dire ? On parle de nationalisme culturel comparé au nationalisme révolutionnaire des Panthers. C'est-à-dire que le nationalisme culturel, c'est le retour aux valeurs, entre guillemets, africaines ancestrales. Et ce qui n'est pas du tout avec le culte du chef, avec une certaine misogynie, ce qui n'est pas du tout l'idéologie des Black Panthers. Donc les deux groupes vont se clasher et se bagarrer sur les campus, et ça va même assez loin, puisqu'en gros, alors c'est justement un des résultats de l'infiltration policière. Plusieurs membres des Panthers seront donc tués par des membres de US. Alors, et donc au niveau des Black Panthers du côté de la Californie, il y a Geronimo Pratt, qui est donc un ancien soldat, qui a un vétéran du Vietnam, et donc Geronimo Pratt qui va aussi solidifier, on va dire, la partie souterraine, puisque les Deacons of Defense, donc qui protégeaient les troupes non-violentes de Martin Luther King, entre autres, il y a une section souterraine des Panthers qui a une formation militarisée ou paramilitarisée. Et le but, c'est de résister justement à l'attaque des maisons, enfin des centres. Donc dans chaque ville ou là où il y a une section des Black Panthers. Parce qu'évidemment, la police ne reste pas inactive face aux Panthers. On rappelle que J. Edgar Hoover a dit que les Black Panthers, c'était la menace numéro un dans le pays. Donc, vous avez... et puis, bien sûr, en fait, alors, il faut revenir au début. Enfin, au début. En 1967, à Sacramento, il y a la visite, je crois, de... Non, c'est pas ça. C'est pas la visite. À Sacramento, ils décident... Alors, parce que les Panthers ont décidé de porter des armes. En suivant justement la constitution des États-Unis. Alors, un noir militant armé, inutile de vous dire que ça ne fait pas plaisir à certains, n'est-ce pas, Ronald Reagan ? Et donc, en 67, il est décidé en Californie d'abolir cette loi, enfin une loi, en tout cas pour empêcher que les Panthers portent ouvertement des armes. Et justement, en fait, le but, c'est de les arrêter. De les mettre en prison, de les criminaliser. Et donc, une délégation de Panthers se rend à Sacramento pour protester et donc est filmée par la télé. Donc, il y a une déclaration de Bobby Seale et ensuite, les gens seront arrêtés. Certains Black Panthers seront arrêtés. Huey Newton ne pouvait pas venir parce que on craignait pour sa sécurité, puis je crois qu'il avait une affaire, il avait été arrêté ou il était en surveillance. Enfin bref, il ne pouvait pas se déplacer. Ensuite, il y a la venue de la veuve de Malcolm X, donc Betty Shabazz, Donc c'est soit c'est à Oakland, soit c'est à San Francisco. Elle doit venir pour tenir une réunion. Et en fait, il y a une section. Alors, il faut préciser que il y avait les Black Panthers de Oakland, mais il y avait plusieurs mouvements qui s'appelaient les Black Panthers, parce que à la base, Black Panthers, c'est le nom d'un parti créé par Stokely Carmichael en 65, je crois, ou 66, ou un peu avant. Le but, c'était d'inciter les Noirs dans le sud des États-Unis, donc là où la ségrégation est à fond, là où le Ku Klux Klan sévit à fond. Donc le but, c'était d'inciter les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales. Inutile de vous dire que les affiliés Ku Klux Klan faisaient tout pour que les Noirs ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, puisque en général, dans certains endroits, les Noirs étaient en majorité et les Blancs en minorité. Vous vous doutez bien que si les Noirs votaient plus, certains postes, notamment d'élus démocrates, parce que les élus démocrates dans les États du Sud, c'était pas des John Fitzgerald Kennedy ou des... Enfin bref, c'était pas des libéraux, entre guillemets. Est-ce que ça a changé? Mais bon, ça, c'est un vaste débat. N'est-ce pas Joe Biden, etc. Mais bref, n'est-ce pas Kamala, etc. etc. Mais bref, donc Stokely Carmichael, qui était membre du SNCC, Student for Nonviolent Coordinating Committee, donc a décidé, alors Stokely Carmichael, qui menait avec Martin Luther King et d'autres, donc des campagnes de sensibilisation à la non-violence, donc dans le Sud, donc c'était les Freedom Fighters, donc ils descendaient dans le Sud, donc c'est depuis les années 50, hein, depuis le boycott de Rosa Parks. Donc, ils descendaient. Alors, certains étudiants noirs donc venaient dans le sud pour inciter donc les gens à protester et à s'inscrire sur les listes électorales. Donc, Stokely Carmichael décide de créer un parti, donc le parti de la Panthère Noire, pour que les noirs justement puissent voter pour un parti noir, et donc ça va marcher puisqu'il y a un shérif noir qui va être élu, si je me souviens bien. Donc tout ce dont je parle, c'est documenté, et pour les anglophones, je vous conseille une émission qui s'appelle Eyes on the Price, qui, donc il y a plusieurs épisodes, et il y a même eu un bouquin donc, qui documente donc, la lutte des Noirs pour leurs droits, depuis la fin du 19e jusqu'aux années 80. Donc c'est un bouquin qui est disponible à la bibliothèque d'anglais au Tanner. On en était où, nous? On en était où, donc, aux Black Panthers et à la venue de Betty Shabazz? Donc, il y avait plusieurs organisations qui s'appelaient Black Panthers, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, il y avait une organisation qui s'appelait les Black Panthers, donc, du côté de la Californie du Nord, en même temps que les Black Panthers de UAP Newton et Bobby Seale. Donc, il y avait très peu de membres à cette époque. Et donc, ces Black Panthers-là étaient supposés assurer la défense de Betty Shabazz, sauf que quand la police est arrivée, les gens se sont un peu dégonflés. Et les Black Panthers de UAP Newton étaient les seuls à ouvertement avoir leurs armes et à effectivement défendre les... Enfin, en tout cas, essayer d'assurer la sécurité de Betty Shabazz, qui a été impressionnée. Et Eldridge Cleaver, qui était donc qui travaillait pour une organisation qui s'appelle Ramparts, donc une organisation militante, pas noire justement, mais militante. Donc il y avait des gens contre la guerre du Vietnam. Il y avait des écrivains, c'était un journal culturel aussi. Donc Eldridge Cleaver est impressionné et il va décider de rejoindre les Black Panthers ce jour-là. Donc, c'est lui qui aura donc l'idée de créer un journal comme Malcolm X avait créé un journal pour la Nation of Islam. Et je ne me souviens plus du nom du journal, mais ça va me revenir. Donc, voilà comment Eldridge Cleaver arrive donc dans la place. Et on va peut-être passer un morceau. On va écouter Above the Law et le morceau Uncle Sam's Curse.
You communists and niggers and Jews, tell all your buddies to spread the news. The day of judgment will soon be nigh.
as the Lord in his wisdom looks down from on high. Will his battle be lost by mixing the races? We want beautiful babies, not ones with brown faces. Never, never, never I say, for the Ku Klux Klan is here to stay. Never I say, because the Ku Klux Klan is here to stay. These Ku Kluxers are better with lynchings than they are with lyrics.
And live life swift while you're rotting and rhyming in the cell. Now break yourself, nigga. How the hell you figure? You used to need gas money, hope. I guess the G's are full grown.
Yeah, now it's time to play the motherfucking clown.
You're acting all stupid like you don't know where we been. We buying a gang of gas, so tell a friend that God put us here to innovate first. Now the world's giving.
See, I don't trust man, nigga, only trust God. So in the zone, bow down to the black mob. I'll be the dark-skinned nigga representing from Pomona and the racked out tray on them dumb toners. Yeah, cause I'm a floss for mine and I'm a toss for mine to let you know that it costs for mine. Yeah, cause I'm a come like a true nigga. And for lunch, I think I won't fry twastika. Aw shit, we going off the deep end. We all off the hook and we flowing like the wind. I'ma take off on your ass like a Learjet. And if this shit gets deep, you're gonna get wet up. And out of luck, tryna fuck with the original. I used to slang dope, but now I get residual.
What's your name?
187.
What's your name?
187.
What's your name?
187, if I hear this, my crew, it's up forever.
Above the Law, Uncle Sam's Curse. Et on... Il y a un souci apparemment.
You heard about what's going on in there?
Heard a lot of bullshit talk, I know that much.
On écoutera ce morceau là plus tard. Donc, Above the Law, Uncle Sam's Curse. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié le nom des militants californiens du Black Panthers qui ont été tués par des membres de US. Alors, c'est Bunchy Apprentice Carter et John Huggins, donc le mari de Erica Huggins. Alors, petit tour de table, une émission où figure Erica Huggins. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Ça s'intitule les femmes Black Panthers, donc discussion en lendemain de la mort de Huey P. Newton en 1989. On reviendra là-dessus.
Lost the war on poverty. It would probably be more accurate to say we lost some major battles, but the war is still going on. This morning, we'll tell you about one program that has been fighting that war and winning for 25 years. That program is the Job Corps. Today, we'll meet some people involved with it and find out how Job Corps has survived and is continuing to help thousands of young adults. Young and old alike have a summer treat ahead. It's almost time for the 17th annual Examiner Opera in the Park concert. This morning, we'll get a sample of what you will hear when the music begins. Plus, this past week, Pete Rose, one of baseball's greatest players, was banned from the game for life. Two local sports writers will be here to comment on the commissioner's decision and tell us whether they think it will keep Pete Rose out of the Hall of Fame. And then a very special treat from a very talented young lady who will be performing with the San Francisco Symphony Orchestra next month. But before all of that, we turn our attention to one of this week's biggest stories, the death of Black Panthers co-founder Huey Newton. Today, some of the people who were formerly involved with the Black Panthers will be here to talk about what it was like in those early days. But first, here's a background profile on Huey Newton from Liz Gonzalez.
Donc, c'est après la mort de Huey P. Newton, donc, qui a été tué par un dealer de crack en 1989. Alors, il faut peut-être revenir là-dessus. Donc, on en était, nous, aux Black Panthers de 67-68. Donc, le mouvement grossit en Californie, déjà, et puis dans d'autres villes, bah, notamment New York. Et à New York, donc, vous aurez Afeni Shakur, vous aurez Assata Shakur aussi. Et dans d'autres villes, alors je ne sais pas si on a au Texas, mais il y en a en Oklahoma, etc. Enfin, dans plusieurs États, il y a des sections, à Chicago bien sûr, avec Fred Hampton. Donc plusieurs États, il y a des sections donc, des Black Panthers qui se forment. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un veut fonder une section, il doit avoir l'aval du bureau qui se trouve à Oakland, donc du bureau, du siège du parti qui se trouve à Oakland. Donc il va y avoir plusieurs délégations, des gens qui vont voir les Panthers. Et en gros, les Panthers donnent le feu vert ou pas. Alors, Fred Hampton, par exemple, à Chicago, il faisait partie du SNCC ou des organisations liées à Martin Luther King. Et donc, il est devenu donc, leader des Black Panthers à Chicago. À Philadelphie, il y a un chapitre aussi, donc avec notamment Mumia Abu-Jamal. Qu'est-ce que je voulais dire qui m'a échappé à propos des... À propos des Black Panthers. Enfin bref, le mouvement SM. Et le problème, c'est que dans les entrées, ben, il y a, comme je vous ai dit, comme ils vivaient surtout le. Ah, ça y est, voilà ce que je voulais dire. Il y a en plus, donc, le mouvement grossit et il y a des troupes du SNCC, donc du SNCC. Qui vont rejoindre le mouvement, donc notamment Stokely Carmichael, qui sera nommé à un poste au niveau du bureau, on va dire du bureau exécutif des Panthers, donc au niveau national. Il y aura aussi H. Rob Brown, donc, qui est mort il y a quelque temps d'ailleurs, qui sera aussi nommé. Alors H. Rob Brown qui a dit notamment la violence est aussi américain que le cherry pie, je crois, ou l'American pie, je ne sais plus. Sauf que ces gens-là ne vont pas rester longtemps dans les... Donc, ils arrivent en 68 et ils ne vont pas rester longtemps parce qu'il y a des... Comment dire c'est pas le, ils n'ont pas la même philosophie, on va dire. Ils sont un peu plus policés, entre guillemets, que les Panthers. C'est-à-dire que certains leaders des Black Panthers ont un comportement un peu trop agressif. Et les gens vont s'en plaindre hein, de ça, notamment à Asata Shakur. Asata Shakur, en fait, elle va... Enfin, faudra que j'en parle de Asata Shakur. Elle va rejoindre les Panthers en 70 et elle va les quitter en 71. Alors, elle va rejoindre les Panthers, elle va aller voir le siège à Oakland, le siège, donc comment les gens fonctionnent à Oakland. Ensuite, elle retourne à New York parce que c'est là où elle est en fait. Elle est étudiante à New York au moment où elle rejoint le parti. Elle sera donc à la section de Harlem et en fait, elle voudrait que le parti collabore plus avec d'autres organisations militantes. Mais ça, je reviendrai en fait sur le parcours de Asata Shakur. Et elle va quitter le parti parce qu'elle trouve que le parti est un peu trop renfermé. Et puis bon, il y a le côté un peu, je suppose qu'il doit, doit y avoir le côté machiste de certains militants. Alors, quand on regarde les récits de différents militants dans différentes régions des Panthers, on voyait que certaines femmes se plaignaient du fait qu'il y avait des gens alors des hommes bien sûr, hein, donc qui avaient l'uniforme des Panthers, qui paradaient, parce que c'est prestigieux l'uniforme des Panthers et ça permet, c'était utile pour la drague notamment. Donc, dès qu'on avait l'uniforme, c'était de ticket gagnant. Et ça, et comment dire, certains ne faisaient que porter l'uniforme. Parce que les Black Panthers, quand on ouvre un chapitre des Black Panthers, il y avait, parce que ça, il faudrait que j'en parle aussi, c'est par rapport au programme des 10 points. Il y a plein de choses à faire. Il y a vendre le journal chaque jour. Ce qui est risqué parce que on peut être agressé par les gens liés au Ku Klux Klan et à la police, les organisations qui n'aiment pas les Panthers comme celle de Ron Karanga par exemple, ou tout simplement par des voyous hein, parce qu'il y a en parallèle il y a les gangs qui montent, la drogue qui arrive, ça c'est pareil, faudra alors. Je fais une grosse parenthèse. Vous avez l'occasion, regardez la série Snowfall de John Singleton, parce que le protagoniste, donc Franklin Saint, a des parents qui sont liés aux Black Panthers, justement, qui étaient militants Black Panthers du côté du Nord, je crois, de la Californie du Nord. Le père, notamment, était un militant Black Panther. Donc, qui a été harcelé par la police, qui a fini clochard avant de revenir. Et voilà, c'est le côté Black Panther. Et d'ailleurs, il parle même d'Asata Shakur à un moment, parce qu'ils doivent se réfugier à Cuba. Enfin bon, j'essaye de... Là, c'est la cinquième saison. Hein, j'essaye de ne pas trop divulgâcher, comme on dit. Mais voilà, donc regardez, ça. Donc, il faut distribuer le journal. Il y a des programmes éducatifs, c'est-à-dire qu'il y a des classes d'éducation où les gens vont étudier les penseurs comme Marx, comme Fanon, comme Mao. Et donc, ils vont expliquer ça aux nouveaux adeptes, mais aussi essayer de former la communauté. Donc, il y a des rassemblements où on accueille où on peut accueillir la population et on peut discuter avec elle. Parce que le but des Panthers, c'est pas d'être une organisation, comment dire, élitiste qui regarde les autres de haut. C'est d'être au contact du peuple, au contact du quartier, de la communauté, et de voir ce dont le quartier a besoin. C'est pour ça qu'il y a le 10 program points, donc ce que nous voulons, ce en quoi nous croyons, etc. Le but, c'est de demander aux gens qu'est-ce que vous voulez et comment on peut y arriver. Et donc, par exemple, il y a eu lutter contre la brutalité policière. Donc ça, c'était un des points majeurs des Panthers. Ils ont le premier gros dossier, je crois, du journal, c'était à propos d'un jeune homme qui s'appelait Denzel, si je me souviens bien, qui a été assassiné donc par la police. Enfin voilà, il y a eu la visibilité des Panthers, c'est au début, c'est ça, c'est lutter contre la brutalité policière. On veut dire que Huey P. Newton, d'ailleurs, si vous regardez un clip de Mobb Deep, dont le nom mais de Shook Ones, je crois, on voit brièvement Huey Newton en action en train de secouer un peu des gens. Alors, donc, être panteur tous les jours, donc, comme je disais, c'est donc aller les classes d'éducation, il y a vendre le journal, et il y a le programme de nourriture des enfants, le breakfast program. Donc, il faut se lever tôt, préparer le petit déjeuner pour les enfants, et les surveiller avant qu'ils aillent en classe. Parce qu'ils avaient remarqué que les enfants étaient moins attentifs en classe parce qu'ils avaient le ventre creux. Donc voilà, voilà ce qu'il y avait au niveau des Black Panthers. Et on va dire que certains... Et puis bien sûr, il y a surveiller le... Comment dire ? Il y a faire la permanence donc, dans le bâtiment. Et surveiller le bâtiment, puisque le bâtiment peut être attaqué par la police. Il y avait des raids policiers sur différents bâtiments des Panthers, donc ça entre 68 et 70. Et voilà, faut surveiller tout ça. Donc il y avait des gens qui avaient l'uniforme des Panthers et qui faisaient quasiment rien, qui draguaient, alors que bah, il y avait d'autres adhérents, d'autres adeptes du parti bah, qui mouillaient la chemise. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, Huey Newton, en 68, il est blessé, il est accusé de meurtre sur un policier, donc il est emprisonné, et il sera libéré, donc il y a des mouvements, le Free Huey Movement, il sera libéré en 70, et en fait, c'est le fait qu'il ait été arrêté qui a traîné pas mal de jeunes, en fait, qui sont venus adhérer au parti. Et donc, les gens avaient une certaine image de Huey Newton. Ça, j'en ai déjà parlé et reparlé et reparlé. Et quand Huey Newton arrive, lui, il veut calmer le jeu, déjà. Alors, je ne dis pas... je ne vais pas raconter, on va dire, son parcours en prison. Enfin, en tout cas, son parcours présumé en prison. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que... apparemment, on l'aurait petit à petit neutralisé, au sens où quand il sort de prison, bah, il est déjà moins vindicatif, quelque part. Et il va devenir accro à la cocaïne et au plaisir de la chair. Et on va dire que l'activité des Panthers, ça sera le cadet de ses soucis. En tout cas, lui, ce qu'il veut au début, c'est calmer le jeu. C'est-à-dire que... Bon, on peut le comprendre. Il voit que les Panthers sont réprimés sur tout le territoire. Donc, lui, il veut moins de confrontations, justement, et que les Panthers se recentrent sur les programmes sociaux, c'est-à-dire le breakfast program, etc., etc. Qu'ils aient plus d'actions sociales, en fait. Or, Eldridge Cleaver, donc, qui lui est en sous-surveillance et poursuivi par la police, mais encore en liberté, contrairement à Huey Newton, lui, il veut plus d'actions violentes, plus de réactions justement aux attaques policières. Et donc, les deux leaders pas en concurrence, mais ils sont pas en désaccord là-dessus. Et Huey Newton va finir par exclure Eldridge du parti. Et donc, il va y avoir deux Black Panthers, pas concurrents, mais en guerre, en fait. Donc, entre 70 et 71, c'est la scission. Ceci accéléré par le fait que... alors, l'émission va bientôt finir, on va faire la partie 2, ne vous inquiétez pas. Ceci, parce que là, pour l'instant, on n'a quasiment pas parlé de Assata Shakur en elle-même. Donc, il y aura la scission du parti entre les partisans de Eldridge Cleaver et les partisans de Huey Newton, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a surtout des gens que Huey Newton ne peut pas sentir, et aussi des gens que Eldridge Cleaver ne peut pas sentir. Et donc, il y a des assassinats programmés de part et d'autre. Et donc, il y a notamment le chef du journal, dont j'ai oublié, il faut que je retrouve le nom du journal du parti, qui est assassiné. Enfin, bon, il y a des gens importants, des Panthers qui sont assassinés. Et en fait, tout ça est organisé, on va dire téléguidé de loin, par le FBI et la CIA. Ça s'appelle le Quintel Pro. Et en fait, ils vont, attiser le feu, en fait, attiser la tension entre les deux camps pour détruire le but, c'est de détruire les partis, tout simplement. Bien entendu, ils vont aussi accélérer la répression policière. Et en fait, à partir de 71, le parti, c'est un champ de ruines. En plus, il y a l'infiltration, c'est-à-dire il y a des gens qui arrivent, qui sont téléguidés par le FBI ou par la CIA, qui vont bien sûr inciter à l'action. C'est-à-dire ils vont dire, vous voyez, ce militant-là, il est un peu trop modéré, il faut faire ci, il faut faire ça. Et certains vont commettre des crimes, certains vont inciter à l'action contre la police ou contre des soi-disant traîtres. Enfin bref, c'est l'explosion totale. Huey devient de plus en plus paranoïaque. Ils se bunkerisent entre guillemets parce qu'en fait il va y avoir un appartement pour lui, donc il s'isole un peu des autres adhérents et des militants, et donc il se met à consommer de la drogue à fond, et on va dire certains militants. Donc, en gros, ils s'aperçoivent qu'ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. Et donc, certains décident de quitter les Panthères en 71. Et donc, certains vont créer la Black Liberation Army. Alors, selon les dires, les gens diraient que la Black Liberation Army est déjà là. Mais moi, je dirais en fait que c'est la partie souterraine qui était déjà là. Parce que, notamment, Geronimo Pratt avait organisé l'action souterraine, l'action un peu de guérilla, qui était supposée protéger donc les bâtiments des Panthers, comme je disais, et éventuellement répondre à l'action policière. Alors, on va écouter quelque chose lié à cette Chacour avant de terminer.
A fighter for black rights, she is a villain to others who believe she hides her crimes behind revolutionary rhetoric. Back in the 1970s, Assata Shakur was known as the soul of the self-styled Black Liberation Army, an armed group implicated in the killings of several police officers. In New Jersey, Governor Whitman has posted a $50,000 reward for her capture. Meet her now in Cuba. As she walks through Havana streets, she is just another shopper. She passes almost unnoticed by Cubans. Her name is Assata Shakur. In the United States, she is known by the police and FBI as Joanne Chesimard, one of the nation's most wanted fugitives. Wanted for what police describe as the cold-blooded execution of a New Jersey state trooper back in the 70s. She denies it and says of the state cops,
they want to just kill me. They want to see me dead.
Chesimard was convicted in the killing of Trooper Werner Foster and the wounding of another trooper in a furious shootout on the New Jersey Turnpike in East Brunswick. That's where Chesimard was wounded, and one of two men in the car with her was killed, the other later captured. Police say that after Trooper Forrester was shot down, his own gun was ripped from his holster and two bullets were fired into his brain. After her capture in that deadly shootout, she was sentenced to life in prison. In 1979, with the help of three armed men, she broke out of the women's prison in Clinton, New Jersey.
She made her break this afternoon from the prison in Clinton, New Jersey, and lawmen once called her the soul of the Black Liberation Army.
Chesimard went underground and then surfaced in the 1980s in Cuba under Fidel Castro's protection. Now,
donc, en gros, on dit que il y a eu. Alors, j'en reparlerai en détail, mais il y a eu en 73, donc une fusillade entre des militants de la Black Liberation Army et la police. Donc, un policier est tué, John Chesimard est arrêté et blessé, un peu comme Huey P. Newton d'ailleurs. Donc, elle est incarcérée et on est en 73. Alors, il y a un livre de sa tante qui était son avocate. Qui raconte qu'en fait il y a eu pas mal de procès, et en fait de toute façon avec les Panthers c'était pareil, il y avait procès sur procès sur procès. Le but c'était bien entendu parce que pour les procès il faut payer l'avocat, et donc en fait si on paye l'avocat c'est de l'argent de moins pour le parti, pour le journal, pour les programmes sociaux. Donc le but c'était d'asphyxier financièrement les Panthers. Donc Assata Shakur, bon, elle n'était plus dans les Panthers, mais c'était le même principe. procès sur procès sur procès sur procès, et donc pour asphyxier financièrement les organisations qui la soutenaient. Et voilà, donc pendant qu'il y avait un procès pour une action, il y avait un procès pour une autre, etc. Parce que bon, en tant que membre de la Black Liberation Army, elle est impliquée dans plusieurs choses. En gros, la Black Liberation Army, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant.